question dont la réponse en étonnera sûrement quelques-uns. Est-ce que le monde d'aujourd'hui vit sous une malédiction quelconque? Les Saintes Écritures vont nous répondre bien clairement, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. On va voir plusieurs sujets aussi intéressants, aussi passionnants les uns que les autres, quand on va entendre les réponses aux questions que voici. Quelle attitude d'esprit est-ce qu'on doit avoir pour que Dieu nous utilise dans son œuvre? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le diable se serve de certaines personnes pour nous ridiculiser afin de nous décourager quand on veut faire l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce qui devrait nous motiver à ne pas avoir honte de l'Évangile? Devons-nous nous attendre à des persécutions quand on veut servir Dieu? Devons-nous nous attendre à être critiqués quand on veut servir Dieu? Devons-nous tous servir Dieu de la même manière? Par où est-ce qu'une personne doit passer pour venir à Dieu? Est-ce que le monde d'aujourd'hui vit sous une malédiction quelconque? Est-ce que Jésus nous appelle tous à évangéliser? Restez parmi nous, le pasteur Régent Joly est sur le point de nous donner la réponse à chacune de nos questions, la Bible en main. Mais premièrement, demandons à Dieu de disposer nos cœurs à recevoir ce précieux enseignement de la Bible, de sa parole. Prions. Ô Seigneur, aide-nous à faire le vide de toute pensée, de toute chose autre que ce que tu désires nous enseigner aujourd'hui. Dispose nos cœurs à recevoir tout ce bon enseignement que tu as en réserve pour nous. Enseigne-nous, Seigneur, parle à nos cœurs, fais pénétrer ta parole profondément en nous, et aide-nous à la mettre en pratique. Gloire à toi, Seigneur, pour ton amour, pour ta miséricorde. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, Néhémie a demandé au roi Artaxerxès la permission d'aller à Jérusalem pour y reconstruire les murailles de la ville. Elle lui fut accordée, car Dieu disposa le cœur du roi en faveur de Néhémie. Celui-ci avait fait une prière fervente, appuyée sur la parole de Dieu, parole qu'il croyait. Donc, Néhémie se rendit à Jérusalem sous la protection d'une escorte militaire imposante. Les ennemis de Dieu et des Juifs ne furent pas heureux d'apprendre que quelqu'un venait pour faire du bien au peuple de Dieu. Néhémie inspecta les murailles de Jérusalem pendant la nuit. Aujourd'hui, nous allons voir qu'il va se présenter aux autorités de Jérusalem pour les encourager à reprendre les travaux de construction. Nous avons vu que Dieu peut utiliser une personne de foi qui est touchée par l'état de son peuple. Cette personne n'a pas à imiter qui que ce soit, ni à être pasteur. Elle a simplement à se rendre utile selon les dons que Dieu lui a donnés. Ayant évalué l'ampleur de la tâche à accomplir, Néhémie convoque les Juifs, les sacrificateurs, les grands, les magistrats et les fonctionnaires. Nous reprenons la lecture au verset 17 du deuxième chapitre du livre de Néhémie. Lisons ensemble les versets 17 et 18. Je leur dis alors, « Vous voyez le malheureux état où nous sommes? Jérusalem est détruite, et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem, et nous ne serons plus dans l'opprobre. » Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi, et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, « Levons-nous et bâtissons !» Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Tous les chefs de famille de la région de Jérusalem se réunirent. Néhémie leur raconta comment Dieu l'a dirigé et a béni son projet jusqu'ici. Il leur expliqua comment, par la grâce de Dieu, il obtint un congé sabbatique pour venir à Jérusalem. Il expliqua qu'il avait déjà inspecté les ruines des murailles. Il connaissait maintenant l'ampleur des travaux et il dit au groupe, « Allons-y et reconstruisons! Dieu est avec nous! » Les gens répondirent avec enthousiasme, Nous sommes de la partie, nous embarquons. » Notez la méthode de Néhémie. Il n'a pas entrepris les travaux sans eux. Il n'a pas utilisé l'autorité que le roi lui a donnée pour imposer son projet. Il savait qu'un projet d'une telle envergure ne se complète pas avec un seul homme. Notez l'emploi du pronom « nous ». Néhémie n'a pas accusé les Juifs de Jérusalem d'être responsables de la situation déplorable. Il ne nie pas la gravité de celle-ci. Il s'identifie aux Juifs et il propose la solution, soit reconstruire la muraille. C'est un homme positif. Donc, il encourage les Juifs à participer au projet. Il leur fait voir l'avantage de reconstruire les murailles de la ville et il donne toute la gloire à Dieu. Ce n'est pas le projet de Néhémie, c'est le projet de Dieu. Donc, tous se sont levés d'un commun accord pour entreprendre les travaux. Chers amis, marchons dans l'humilité comme le fit Néhémie. Néhémie était un chef doué, inspiré et guidé par Dieu. Les chefs de famille à Jérusalem acceptèrent de le suivre. Néhémie n'élabore pas le récit avec des détails superflus, mais il dit simplement, et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Néhémie ne rallonge pas son récit avec de nombreux détails. Il est concis et il vient droit au but. C'est un homme humble et il demeure à l'arrière-plan. Il ne se vante pas au sujet de la manière qu'il a rassemblé ses gens et qu'il les a convaincus d'appuyer son projet. Tout comme nous aujourd'hui, chers amis. Cela devrait être notre attitude devant Dieu et devant les autres. Dans la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 5, nous lisons « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Revenons à notre texte, de Néhémie, chapitre 2, verset 19. Sanballa, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Guichem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, « Que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? » Le ridicule est une arme satanique. Voilà nos trois ennemis de Dieu. Ce n'est pas le genre de trio que vous aimez avoir dans votre entourage, chers amis. Tous les hommes de Dieu ont probablement un ou deux Néhémie dans leur entourage et ils apprécient de tels hommes. Malheureusement, il y a aussi des Sanballa, des Tobija et des Geshem. L'ennemi emploie de nombreuses tactiques pour décourager les chrétiens. Et en général, la première qu'il emploie, c'est le ridicule et le mépris. Voici ce que raconte J. Vernon McGee, le prédicateur dont nous adaptons les textes. Lorsque je me suis converti, je travaillais dans une banque et j'avais plongé dans le péché la tête première. Je commis des péchés sérieux. Je n'oublierai jamais la réaction de mes collègues de travail lorsque j'ai annoncé que je démissionnais car Dieu m'appelait au ministère. Je ne savais pas qu'une personne pouvait tant être ridiculisée. Lorsque j'ai quitté la banque ce jour-là, j'étais découragé. J'avais envie de retourner et de dire à mes compagnons de travail que je les avais fait marcher, que c'était une farce. Mais je me rendis vite compte que je n'avais plus d'amis. J'ai perdu tous mes soi-disant amis. C'est pendant les années de la prohibition, et ils n'étaient qu'intéressés à consommer de la boisson frelatée et de rechercher les plaisirs. Je suis retourné à l'école et je me sentais découragé. L'ennemi a commencé par me ridiculiser, mais il ne le fait plus maintenant. Chers amis, le diable va se servir des gens pour vous ridiculiser parce que vous êtes chrétien. Parfois, vous devrez passer des moments difficiles. Ce fut le cas de Néhémie. Les trois principaux adversaires de Dieu ont premièrement ridiculisé et méprisé les Juifs afin qu'ils ne complètent pas la tâche herculienne qu'ils avaient entrepris, soit la reconstruction des murs et des portes de la ville. N'avons-nous pas honte de l'Évangile? Auparavant, lors de la construction du temple, les ennemis des Juifs les avaient accusés de rébellion afin de faire cesser les travaux. Maintenant, Néhémie se présente avec les lettres du roi, et malgré cela, ils répètent leurs accusations. Cependant, Néhémie n'avait pas honte d'être un serviteur de Dieu, d'être identifié avec Dieu. Paul nous donne la raison pour laquelle nous ne devons pas avoir honte. « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit. Le juste vivra par la foi. » Romains chapitre 1, versets 16 et 17. Le Seigneur Jésus a averti ses disciples que le monde les haïrait, car ses œuvres sont mauvaises. Il les a avertis qu'ils seraient persécutés. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, et ils vous battront de verge dans leurs synagogues. Vous serez menés, à cause de moi, devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais, quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents, et ils les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu chapitre 10, versets 16 et 17, ainsi que le verset 22. Donc, lorsque nous servons Dieu, nous devons nous attendre à devoir faire face à de l'opposition, et elle ne viendra pas toujours de l'extérieur de l'Église. Dans le livre des Actes, nous voyons que les chrétiens furent persécutés dans tous les lieux. Néhémie chapitre 2, verset 20. Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Observez ce qui se passe. J'aime Néhémie, et j'espère que vous l'appréciez aussi. Il répondit. Tassez-vous, nous avons du travail à faire, Dieu est avec nous. Dieu était avec eux, et ce fut merveilleux. Plutôt que de se quereller avec eux, Néhémie retourna son travail et laissa Dieu s'occuper de Sanballa et de Tobija. Les deux hommes n'avaient ni part ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Ils se sentaient menacés par la venue de Néhémie. Les deux hommes vivaient strictement pour eux-mêmes et ils ne se souciaient pas de Dieu. Ils ne pensaient qu'à leurs propres intérêts. En ce qui nous concerne, quelle place donnons-nous à Dieu dans notre vie? Notez comment Néhémie a pris les critiques. Quiconque sert Dieu sera critiqué. Néhémie n'a pas écouté ce que disaient Sanballa et Tobija. Tout responsable chrétien doit apprendre à recevoir de la critique. Premièrement, s'il n'en reçoit pas, c'est qu'il ne fait rien. L'opposition que l'on reçoit doit être évaluée en fonction de l'attitude et de l'esprit avec lesquels sont faites les critiques. Si la source des critiques n'écoute pas la voix de Dieu, il ne faut pas écouter la critique. Si la source écoute Dieu, alors il faut prêter oreille, il faut prêter attention à ses critiques. Dieu nous appelle à le servir de différentes façons. N'imitons pas les autres. Maintenant, nous passons au troisième chapitre du livre de Néhémie. La construction des murs de Jérusalem débute. Ce fut un des plus grands projets racontés dans la Bible. Dieu travaillait de façon merveilleuse. Dieu avait mis à cœur à Esdras et à Zorobabel de reconstruire le temple. Il leur confia une tâche différente de celle de Néhémie. Il était un laïc, et sa tâche consistait à reconstruire les murs et les portes de la ville. Dieu travaille de différentes façons, avec différentes personnes. Dieu agit toujours ainsi, mes amis. Il arrive souvent qu'en débutant dans le ministère, nous essayons d'imiter quelqu'un d'autre. Bien, cela ne réussit jamais. nous devons être nous-mêmes. Avez-vous déjà remarqué tout ce que Dieu peut faire avec un nez, deux yeux, une bouche et deux oreilles? Il a fait quelques milliards de visages, tous différents les uns des autres. Les doigts qu'il a créés sont innombrables, mais il n'y en a pas deux parfaitement identiques. Ils ont tous une empreinte digitale différente. Dieu nous a tous créés différents, il désire que nous soyons nous-mêmes. Les 10 portes symbolisent le plan du salut. Vous noterez quelque chose de merveilleux dans la façon qu'est racontée la reconstruction des murailles. Les 10 portes racontent toute l'histoire. Elles commencent par la porte des brebis et se terminent avec cette même porte. Certains demandent s'il y avait d'autres portes. Je doute qu'il y en ait eu à cette époque, mais la chose est possible. Les 10 portes illustrent l'Évangile et expliquent le plan du salut. Chers amis, débutons la lecture du 3e chapitre du livre de Néhémie. Verset 1er. Éliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis le tour de Méa jusqu'à la tour de Hananéel. Nous devons tous venir à Dieu en passant par l'unique porte, Jésus-Christ. La porte des brebis. Les travaux ont débuté à la porte des brebis, chers amis. C'est par cette porte que le Seigneur Jésus est entré à Jérusalem. Le chapitre 5 de l'Évangile selon Jean nous raconte une de ces belles histoires. C'était la porte à proximité de la piscine de Bethesda. Certains pensent qu'il a toujours utilisé cette porte, sauf le jour de son entrée triomphale. Il a alors utilisé la porte de côté, est. Certaines personnes confondent la porte de l'Est avec la porte d'or. La porte d'or conduit au temple. C'est cette porte qui sera ouverte afin que le Seigneur Jésus aille au lieu très saint. Les animaux destinés au sacrifice entraient par la porte des brebis. Le Seigneur Jésus utilisait cette porte. Il illustrait ainsi une vérité à son sujet. Il illustrait ce qu'a dit Jean le Baptiste. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Jean chapitre 1, verset 29. « Il est l'agneau de Dieu parce qu'il était un homme sans péché qui a pu offrir sa vie en sacrifice pour la nôtre. Il ôte les péchés du monde. » La porte des brebis est un symbole de la croix du Seigneur Jésus. C'est à la croix que débute notre relation avec Dieu. C'est à cette seule place qu'elle peut commencer. Dieu ne nous demande rien tant que nous n'avons pas reçu le Seigneur Jésus comme sauveur personnel. Dieu n'a qu'une question à poser aux gens du monde, et la voici. Que faites-vous de mon Fils qui est mort pour vous? Tant que vous n'aurez pas répondu à cette question, il ne vous parlera pas de votre vie et de votre service pour lui. Si vous le rejetez, ainsi que son Fils, Dieu ne vous demande plus rien. Il ne désire ni vos bonnes œuvres, ni votre argent. Il ne veut rien de vous. C'est plutôt lui qui a quelque chose pour vous. Son Fils unique, est mort pour vous. Il a donné sa vie en rançon pour la vôtre, afin que vous puissiez revenir à Dieu et recevoir gratuitement la vie éternelle. Il ne vous reste qu'à accepter ce cadeau. C'est ce que la porte des brebis illustre. Le plan de salut de Dieu commence à la porte des brebis. Éliashib, le souverain sacrificateur, donna l'exemple en débutant les travaux. Ce geste fut important. Les brebis ne suivront pas si le berger ne marche pas devant elles. La participation d'Éliashib aux travaux démontrait l'appui des chefs religieux. Elle appuyait les efforts de Néhémie, qui devait encourager la population à contribuer à l'effort de construction. De plus, nous voyons que les prêtres ne sont pas exempts des obligations communes à tous. Ils ne sont pas trop élevés pour être exempts de participer aux travaux. La présence des pasteurs et des anciens est essentielle pour la réussite des projets tels que des programmes d'évangélisation. Je connais un chrétien qui siégeait au conseil de son église. Il trouvait très difficile d'évangéliser, mais il fit un effort spécial pour le faire lors de la préparation d'une campagne d'évangélisation. Je ne me voyais pas demander aux membres de l'Église de participer à une activité si je n'étais pas disposé à y participer moi-même, m'expliqua le chrétien. Malgré que j'ai trouvé cela très difficile, je suis sorti. Et je suis allé évangéliser. Si la direction de l'Église veut que la congrégation participe à un projet, elle doit s'y impliquer et donner l'exemple. Verset 2. À côté d'Éliashib bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui bâtit aussi Zaccur, fils d'Imri. Jéricho est un endroit de malédiction. Les hommes de Jéricho travaillaient à côté de la porte des brebis. Les hommes de Jéricho sont venus de la vallée du Jourdain jusqu'à Jérusalem. Ils construisirent une partie de la muraille voisine de la porte des brebis. Si vous contourniez le mont des Oliviers sur la route de Jéricho, vous vous trouveriez à l'endroit où travaillaient ces hommes. Le pinacle du temple et la zone du temple se trouvaient à cet endroit. Une malédiction avait été prononcée sur la ville de Jéricho, après l'avoir détruite. Josué avait dit, « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. » Josué, chapitre 6, verset 26. C'est exactement ce qui s'accomplit pour l'homme qui reconstruisit la ville sous le règne d'Akab. Deux de ses fils moururent, l'aîné au début de la construction et le cadet à la fin de celle-ci. Jéricho était la ville de la malédiction. Le monde est sous la malédiction du péché. Vous et moi vivons dans un monde sous la malédiction du péché. Je n'ai pas besoin d'élaborer sur ce sujet. Lisez votre journal ou regardez les nouvelles à la télévision. L'homme a conduit ce monde à un état lamentable, et il semble totalement incapable de résoudre les problèmes. Même les chefs d'État, les ministres et les fonctionnaires, non chrétiens, reconnaissent qu'ils sont impuissants devant les problèmes mondiaux et sociaux. Nous vivons dans un monde maudit. Seule la mort de Jésus-Christ à la croix peut ôter cette condamnation qui repose sur nous. Écoutez le prophète Ézéchiel. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ézéchiel, chapitre 18, verset 4. Mes amis, ce verset nous condamne tous. Cependant, le Seigneur Jésus peut prendre sur lui votre condamnation, car il est mort à la croix, et il sauve ceux qui croient en lui. En effet, en mourant à la croix, il prenait sur lui notre condamnation, la condamnation des croyants. Si vous n'avez pas placé votre confiance en Jésus-Christ, il n'est pas trop tard pour le faire. Vous pouvez le faire maintenant. Poursuivons notre lecture, verset 3. Nous arrivons à la porte des poissons. Les fils de Sénaa bâtirent la porte des poissons. Ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. C'est par cette porte qu'entraient les livraisons de poissons provenant du Jourdain et de la mer Méditerranée. Le poisson était un mets apprécié à cette époque. Il était facile de trouver cette porte. Vous n'aviez qu'à suivre l'odeur. Que symbolise le poisson? Bien, le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, « Je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Matthieu, chapitre 4, verset 19. Jésus nous appelle à évangéliser. Après que les disciples apprirent les faits de l'Évangile, Jésus leur dit, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Luc, chapitre 24, verset 49. C'est-à-dire, n'y allez pas maintenant. Attendez d'être baptisé du Saint-Esprit, d'être habité par l'Esprit, d'être rempli de l'Esprit. Voilà la seule façon de devenir des pêcheurs d'hommes, chers amis. Prochaine émission, Néhémie, chapitre 3, verset 4 à 27.
Merci, Régent. J'ai bien aimé l'exemple de la porte des brebis dans le temps de la reconstruction de la muraille au temps de Néhémie. Régent a mentionné que la porte des brebis représentait Jésus lui-même pour nous aujourd'hui. Dans le 10e chapitre de l'Évangile de Jean, au verset 7, Jésus dit, « en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. » Et au verset 9, il ajoute, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Mon ami, il y a un vieux dicton qui dit que tous les chemins mènent à Rome. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il y a un seul chemin qui mène à Dieu. Jésus nous le dit lui-même, et en plus, il nous dit qu'il est le chemin. Dans l'Évangile de Jean, au 14e chapitre, verset 6, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Régent a mentionné un peu plus tôt que Dieu ne désire ni nos bonnes œuvres, ni notre argent. Il ne veut absolument rien de nous. Son Fils Jésus est mort sur la croix pour nous. Il a donné sa vie en rançon pour la nôtre, afin qu'on puisse revenir à lui et recevoir gratuitement la vie éternelle. Mon ami, tu n'as qu'à accepter ce cadeau que Dieu t'offre. Viens à la porte des brebis. Viens à Jésus. Viens au Père, par le seul chemin qui mène à lui, par Jésus. Je ne te connais pas personnellement, mais Dieu te connaît. Il est ton Créateur. La Bible dit qu'il t'a tissé lui-même dans le sein de ta mère. Il connaît tes péchés, tes désirs, tes joies, tes peines. Tu peux être dans une situation de désespoir en ce moment. Je me rappelle, avant de connaître Dieu intimement, j'étais dans une vraie situation de désespoir, aux prises avec l'alcool, la drogue, l'adultère. J'avais cessé d'espérer que l'amour existe. Je voulais mourir, m'enlever la vie, tellement j'étais malheureuse, sans espérance dans ce monde. Et Dieu a placé une personne sur mon chemin, tout comme il me place sur ton chemin en ce moment. Et cette personne m'a fait découvrir que l'amour parfait existe réellement. J'ai appris que Dieu est amour. Et il m'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que, en croyant en lui, je ne périsse pas, mais que j'aie la vie éternelle. Et aujourd'hui, en ce moment, c'est à toi qu'il offre son grand amour. Mon ami, reconnaît que tu es un pécheur perdu. Reconnais que tes bonnes œuvres, tes sacrifices, tes souffrances ne peuvent pas payer ton entrée au ciel. Je l'ai dit il y a quelques minutes, Jésus est le chemin. Tu ne peux pas venir à Dieu le Père si tu ne passes pas par lui seul. Son sacrifice à la croix est tout ce dont Dieu a besoin pour te déclarer juste, pour te déclarer pardonné, pour faire de toi un enfant de Dieu qui recevra la vie éternelle en héritage à la fin de tes jours sur cette terre. Alors repens-toi et reçois Jésus comme ton Sauveur. Reçois-le comme ton Seigneur.
Cher ami, tu viens d'entendre ce message. Il y a peut-être des choses plus ou moins claires à ton esprit. Nous sommes prêts à prendre du temps avec toi et de pouvoir les expliquer.
Quand j'entends un message pour la première fois, c'est pas toujours clair pour moi. J'ai besoin d'être éclairé de nouveau. Et c'est comme ça que, toi, tu peux recevoir cet enseignement. Appelle-nous, il y a quelqu'un qui va te le réexpliquer, puis tu vas le comprendre, aussi simplement que ça.
Nous avons des gens disponibles en tout temps.
Ils vont parler avec toi, ils vont t'expliquer les Saintes Écritures, ils vont répondre à toutes tes questions.
Et tu pourras parler librement. On est là pour t'écouter.
Tu peux être sûr, on va écouter ce que tu as à dire. Et si tu es souffrant, mais c'est le temps de le partager avec nous. Parce que la parole de Dieu a de belles consolations pour toi.
Parle-leur à cœur ouvert. Dis-leur le fond de ta pensée.
Oui. Fais-toi connaître. Et tu vas connaître en même temps ton grand Dieu, ton Dieu merveilleux. Appelle.
Pour nous rejoindre, au téléphone...
1-877-LESPOIR 1-877-537-7647 ou à notre adresse courriel
www.radioespoir.ca ou à l'adresse postale
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Bonne fin de semaine à tous!
Et à lundi! Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.